Europe 1.
Je vais vous raconter aujourd'hui l'une des affaires criminelles les plus célèbres du XXe siècle, une affaire de 1972, l'affaire de Bruet en Artois, le meurtre d'une adolescente de 15 ans, Brigitte Devèvre, fille de mineur. Et tout à l'heure, pour la débriefer, je serai avec un natif de Bruet en Artois qui se trouve être un ancien policier et qui vient de publier coup sur coup deux livres sur cette affaire aux éditions Ravé en Sceaux, Brigitte, histoire d'une contre-enquête, l'année dernière, et très récemment, Brigitte, acte 2. Bonjour Daniel Bourdon.
Bonjour Christophe.
Je précise que vous pensez avoir identifié l'assassin de Brigitte Devèvre. Et on en parlera ensemble après mon récit. Cette histoire, je l'ai écrite avec Emmanuel Denise. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Cette affaire se déroule dans un décor particulier, à une époque particulière. Si vous faites abstraction de tout ça, vous allez passer complètement à côté de cette histoire. On est à Bruet en Artois, dans le Pas-de-Calais, en 1972. Autrement dit, dans un monde mythique, fantasmé. La mine, Germinal, les gueules noires, les coups de grisou, les terris, c'est ça, Bruet. En 1972, une petite ville minière, mais en train de s'éteindre, de dépérir. Avant, il y avait jusqu'à 18 puits de mine dans le coin. En 1972, il n'en reste qu'un en activité. Un seul, la fosse numéro 6. Et bientôt, dans les corons, ces petites maisons de briques rouges collées les unes aux autres, il n'y aura plus que des retraités et des chômeurs. Et c'est à ce moment si particulier de l'histoire de Bruet en Artois qu'un après-midi d'avril 1972, le 6, vers 5 heures, on découvre le cadavre d'une adolescente, une fille de mineur. Brigitte Devèvre. Il faut que je vous dise où on l'a trouvée. Ça aussi, c'est important. On l'a retrouvée sur un terrain vague. Un terrain vague qui, en quelque sorte, sépare les mineurs des bourgeois de Bruet. D'un côté, le coron, et de l'autre, les belles maisons. Et la première d'entre elles, la maison de Madame Mayer, marchande de meubles, qui a réussi. Une grande villa blanche que les gens d'ici appellent le château. Le terrain vague est pile entre le coron et le château. Pile au milieu. Et donc, vers 5 heures, des gamins jouent au football, ils envoient le ballon un peu trop loin et ils tombent sur un cadavre, vaguement dissimulé sous un pneu.
Là, Jean-Pierre, viens voir, là. Il y a un truc, là. C'est quoi, ça? On dirait c'est quelqu'un. Faut prévenir les parents.
Les parents préviennent le commissariat et quand les policiers arrivent, il y a déjà tout un attroupement sur place. La nouvelle a fait le tour du coron voisin. Et donc, quand les flics soulèvent le pneu, il y a toute une foule pour regarder par-dessus leur épaule. C'est une jeune fille, à moitié nue. Il ne reste que son chemisier. Son soutien-gorge a été arraché. Elle a le corps tout griffé, tout sale. Elle porte des marques autour du cou comme si on l'avait étranglée. Et des entailles sur la tête, profondes. Et là a lieu une scène terrible. Un homme sort de la foule, timide. Tout le monde le connaît, c'est un mineur, Léon Devèvre. Et il dit aux gendarmes.
Cherchez pas, les gars. Chez ma fille, là. Chez ma fille.
Elle s'appelait Brigitte. Elle avait 15 ans. Et l'enquête sur sa mort va bouleverser Bruet en Artois pendant des mois et des années. Les policiers, tout de suite, interrogent les parents. Ils ne l'ont pas vue depuis la veille au soir et c'est normal. Vers 5h30, Brigitte est allée dormir chez sa grand-mère pour lui tenir compagnie. La grand-mère habite juste de l'autre côté du terrain vague. Elle avait quoi? 700 mètres à faire. On l'a tuée à ce moment-là, a priori, quand elle a traversé le terrain. Les policiers de la police judiciaire de Lille prennent le relais du commissariat local. Et quand ils arrivent sur les lieux, ils tombent sur une petite foule, des dizaines de curieux, venus voir où ça s'est passé, et piétinant allègrement au passage la scène de crime. En 72, on ne prenait pas toutes les précautions d'aujourd'hui. Il fouille malgré tout en randonnion, il ratisse tout le terrain, il cherche l'arme du crime qui, d'après le médecin légiste, pourrait être une hache, un hachoir ou une serpe. Un objet tranchant, en tout cas, et lourd. Il ne trouve rien. Et pas non plus d'ailleurs les lunettes de Brigitte. Et ça, c'est bizarre, parce qu'elle les avait toujours sur le nez. Ensuite, ils essayent de reconstituer son parcours. À 5h30, elle part de chez elle. Ses parents disent qu'au passage, dans la cuisine, elle prend une orange. Ça a l'air d'un détail, mais le légiste a retrouvé, évidemment, cette orange dans son estomac. Et le niveau de digestion permet de situer l'heure de sa mort. Aux alentours de 20h, 20h30. Donc, elle sort de chez elle avec son orange. Et là, elle croise une copine, Micheline. Et plus loin, un garçon, Jean-Pierre. D'après ce qu'ils disent tous les deux, ils restent ensemble à discuter jusqu'à 7h30. Et là, Brigitte repart en direction de la maison de sa grand-mère. Une habitante de la rue de Ranchicourt dit qu'elle la croise vers 8h20. Son témoignage est essentiel parce qu'elle dit qu'elle n'était pas seule.
« Il y avait un gars, grand avec un pull à col roulé. Il était de dos. J'ai pas pu le reconnaître, mais bon, elle avait l'air normale, hein. À mon avis, c'est quelqu'un qu'elle connaissait, hein. »
Après, plus personne ne la croise jusqu'à sa mort. Mais une dame de la rue de Ranchicourt, une infirmière qui rentrait du travail, apporte un témoignage très intéressant. Elle est rentrée chez elle vers 8h10. Et elle n'a pas pu se garer comme d'habitude devant chez elle.
Bah, c'est qu'il y avait une voiture garée. Une Peugeot 504 blanche. Ça m'a contrarié, alors je l'ai remarqué, quoi.
Elle a surtout remarqué qu'il y avait quelqu'un dedans. Une silhouette, elle n'a rien vu d'autre. Vers 10h30, elle a regardé par la fenêtre, la voiture était toujours là, mais vide. Alors elle est allée voir avec sa petite lampe de poche, elle a remarqué qu'il y avait une raquette de tennis à l'arrière. Et surtout, la bonne dame a noté le numéro d'immatriculation. 4163-JQ62. Les policiers appellent la préfecture.
Allô? Oui, la police judiciaire de Lille à l'appareil. Ça serait pour avoir le propriétaire de la plaque 4163-JQ62. Oui, j'attends. Pierre Leroy, vous dites. L-E-R-O-Y. D'accord, je vous remercie.
Et là, stupéfaction. Pierre Leroy? Mais Pierre Leroy, c'est le notaire de Bruet. Qu'est-ce qu'il faisait là, à cette heure-là? Son étude est de l'autre côté du terrain vague, rue de la République. Alors tout notaire qu'il est, Pierre Leroy est convoqué par la PJ. Pour un interrogatoire de routine, il s'agit de fermer une porte, comme on dit en langage policier. Il n'y a pas de suspicion particulière à son endroit. Alors pourquoi est-ce qu'il se montre si nerveux devant les policiers?
Monsieur Leroy, vous pouvez nous dire ce que vous faisiez le 5 avril vers 20h? Vers 20h? Oh ben je sais pas trop. J'étais sûrement chez moi, pourquoi? Pourquoi? Parce que nous enquêtons sur la mort de la petite Brigitte de Vèvre. Vous avez dû en entendre parler, non? Quoi? Ah non. J'en ai pas entendu parler. On sait que votre voiture était dans la rue de Ranchicourt le 5 avril vers 20h. Qu'est-ce que vous faisiez là? Votre étude n'est pas là? Oh ça, c'est parce que j'étais pressé. J'avais un rendez-vous, j'étais très en retard. Alors j'ai regardé ma montre, il était 8h30, je me suis garé au plus proche, sans faire attention, quoi. Un rendez-vous, à 8h30. Ben, c'est que c'est un peu délicat. Je préfère pas en dire plus, si vous voulez bien. Ah mais, il faut tout nous dire, monsieur Leroy. On parle d'un meurtre, là. Avec qui aviez-vous rendez-vous? Bon, eh bien, j'avais rendez-vous avec Monique Mayer.
Ah, le notaire est l'amant de Madame Mayer, la propriétaire du château, comme ils disent, la marchande de meubles. Et le problème, c'est que Madame est en instance de divorce, ça n'est pas encore fait, donc ils sont discrets. Bon. Et après, il explique que la nuit du meurtre, ayant garé sa voiture loin de chez son amoureuse, pour passer inaperçu, il a traversé le terrain vague, vers 8h30. Au bout du terrain, il a sauté par-dessus la haie pour arriver par la porte de derrière du château.
Puisque vous êtes passé par le terrain, monsieur le roi, vous avez vu le corps de la petite Brigitte ? Oh non ! Mais non, j'ai rien vu du tout.
Le problème, c'est qu'il dit qu'il est arrivé à 8h30. Et là, il ment, puisque l'infirmière l'a vu dans sa voiture vers 8h10. Vous allez me dire, c'est chipoté, mais comme c'est au cours de cette demi-heure-là que Brigitte a été tuée, il vaudrait mieux pour lui que les horaires concordent, et ils ne concordent pas. Et puis, il a dit qu'avant ça, il était passé chez lui pour se changer. Alors on va interroger sa mère. Elle ne l'a pas vue. Du coup, il change de version. Finalement, il est arrivé un peu en avance. Il se souvient maintenant. Il est resté dans sa voiture à écouter de la musique classique. Et puis quand il a dit tout à l'heure qu'il n'était pas au courant du meurtre de la petite Brigitte, c'était pas vrai. Il a menti. Qu'est-ce qui se dégage de tout ça, d'après vous? De tous ces petits mensonges inutiles? Ça le rend suspect, non? Pour le juge, en tout cas. Oui, ça le rend suspect. Il pense que c'était peut-être lui, l'homme au col roulé, qui discutait avec Brigitte juste avant qu'elle ne soit assassinée. Et donc, il l'inculpe pour le meurtre de Brigitte de Vèvres. Il l'inculpe et il l'envoie en prison. Oui, monsieur, le notaire, membre du Rotary Club, il l'envoie en prison pour le meurtre monstrueux d'une fille de mineur. En 1972, ça va faire un sacré foin. Un notaire qui étrangle une fille de mineur. 4 ans après 1968, dans une France nourrie à la lutte des classes, laissez-moi vous dire que ça ne passe pas inaperçu. Les journalistes déboulent de partout. Et où vont-ils quand ils arrivent ? Eh bien, droit chez Léon de Vèvres, chez le père de la petite Brigitte et chez sa femme. Et qu'attendent les journalistes? Que tous les deux leur parlent du notaire.
Pour moi, c'est vraiment pas croyable, un monsieur si haut placé. Hein.
Est-ce que votre fille connaissait monsieur le roi?
Je ne crois pas, monsieur. Hein. Parce que c'était pas une fille que... Hein, fille de rue, quoi. Hein.
Ce qui est arrivé, c'est quand elle sortait de chez sa grand-mère.
Oui, elle allait toujours le même chemin qu'elle prenait, quoi. Sûrement qu'elle était surprise parce que c'était une fille qui ne s'était pas approchée comme ça. Hein.
D'après vous, est-ce que monsieur le roi serait capable de faire une chose comme ça?
Nier, on peut toujours nier, monsieur. Hein. Qu'est-ce qu'il faisait là?
Et là, commence à apparaître de manière assez diffuse, comme ça, dans les corons, l'idée qu'il va s'en sortir. Parce que c'est un bourgeois. Parce qu'il a des amis haut placés. Il paraît que quand il est arrivé au palais de justice, le procureur lui a serré la main, figurez-vous. Oui, serré la main, et longuement avec ça. Ils se connaissent du Rotary Club à ce qui paraît. Ces gens-là, ça se protège. Je ne vous ai pas encore parlé du juge qui instruit cette affaire. Il faut pourtant, parce que c'est un personnage essentiel de l'histoire. Le juge Henri Pascal, de Béthune. Tout petit, la figure toute ronde, avec des lunettes. Dans cette affaire, tout le monde va l'appeler le petit juge. Il a une conception très personnelle de son rôle. Il est convaincu que le notaire est coupable, alors il le répète à qui mieux, aux journalistes qui défilent dans son bureau. Il adore les journalistes. Et tous les jours, il leur distille des informations. À charge, bien sûr, contre le notaire. Faut dire qu'en face, le notaire se défend très mal. Il sert à chaque fois une version différente de sa soirée du 5 avril. Il dit qu'il est passé par le terrain vague pour entrer discrètement dans la villa de sa maîtresse, sans qu'on le voie. Mais les gens disent qu'avant ça, il rentrait par la grande porte, sans se gêner. Il dit aussi qu'il a attendu 8h30 dans sa voiture pour laisser le temps au mari de Madame Mayer de s'en aller. Mais le mari ne vient plus chez sa femme depuis belle lurette, elle vit seule. Alors pourquoi est-ce qu'il ment, si ce n'est parce qu'il est coupable? 4 jours après avoir inculpé Maître Leroy, le juge Pascal donne une conférence de presse.
Bon. Instruit parce qu'il y avait des charges sérieuses, un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes contre le notaire, Je pense qu'il suffisait, que cela suffisait pour que je l'inculpe et que je place mon mandat de dépôt. Tant que je n'ai pas d'éléments nouveaux, et je considère que ce faisceau de présomption constitue pour moi une preuve. Voilà, j'en suis là pour l'instant.
Et trois semaines après le crime, le juge organise une reconstitution qui attire des milliers de curieux, comme au spectacle. Et quand on sort le notaire du fourgon de police, les gens se mettent à huer. On l'emmène là où un témoin, une voisine, a vu Brigitte parler avec un homme en col roulé. Vous vous souvenez de ça? On lui fait enfiler un pull à col roulé et le juge se tourne vers la voisine. Ça correspond comme ça? Est-ce que c'est ce que vous avez vu? Ah non. Ah non, non, non. Non, c'est pas lui. Monsieur Leroy est beaucoup plus corpulent que le gars que j'ai vu. Non, c'est pas lui. Ah bon? Le juge est un peu décontenancé. À ce moment-là, comme le dossier manque de preuves et que la reconstitution, il faut le reconnaître, a été peu concluante, le procureur demande la libération du notaire. Eh bien voilà, c'est la preuve qu'il est protégé. Voilà ce que disent les gens. Les bourgeois se serrent les coudes. À partir de ce moment-là, l'affaire de Bruet en Artois devient une affaire politique. Incroyablement politique. Et pour comprendre, il faut se placer dans le contexte de 1972, 4 ans après 68. Les gauchistes, tendance maoïste, sont à la fête. Et cette histoire de notaire qui tue une fille de mineur est une excellente occasion de réveiller la lutte des classes. Les Mao s'emparent donc de l'histoire de Bruet, avec à leur tête une grande conscience de l'époque, le philosophe Jean-Paul Sartre et son journal La Cause du Peuple. Le 1er mai, le journal titre « Et maintenant, ils massacrent nos enfants » avec un sous-titre « Il n'y a qu'un bourgeois pour avoir fait ça ». Et voilà donc les Mao qui débarquent à Bruet, avec une camionnette et des piles de tracts. Et qui s'installent où ça? Eh ben, sur le terrain vague, où ils créent un comité pour la vérité et la justice. Devant la camionnette, ils ont installé une petite table et posé dessus des cahiers d'expression libre. Et toute la journée, les gens viennent écrire dessus toute leur haine du notaire. Faut le pendre par les couilles! Faut le découper au rasoir! Page après page, coupable parce que notaire, coupable parce que riche, coupable parce que bourgeois. Et tous les soirs, les membres du comité vont apporter les cahiers à leur héros, le juge Pascal. Quelle époque de fou! Et comme on est loin de la justice. Alors la justice, justement. Vous vous souvenez que le procureur lui-même, constatant que le dossier contre le notaire est assez mince, sans preuve, a demandé sa libération. Le juge avait 5 jours pour répondre. Il fait traîner le suspense jusqu'au bout, pour finir par annoncer avec un petit sourire « J'ai décidé de le maintenir en détention ». Le procureur fait immédiatement appel. Là-dessus, le 4 mai, les médecins légistes livrent un nouveau rapport. Sur le corps de Brigitte, ils ont noté des traces de doigts sur les chevilles et sur les poignets. Ils suggèrent donc que le corps a été déplacé par 2 personnes. Une qui lui tenait les bras et l'autre les chevilles. Et vu par les maoïstes aux idées courtes, qu'est-ce que ça donne d'après vous? Eh bien, la deuxième. C'est Monique Mayer, c'est la maîtresse, c'est la marchande de meubles, c'est elle la complice. Les gens sont d'ailleurs allés écrire sur le mur de sa maison « Arrêtez la complice ». Et là va se produire un petit miracle, un témoin de dernière minute, un certain Clément Leblanc. Il est électricien, il raconte que le soir du meurtre, il était en train de pisser dans un coin de la rue de Ranchicourt. Et il a vu passer un homme chauve et corpulent, avec une fille de 15 ou 16 ans à son bras. Incroyable, hein? Pourquoi est-ce qu'il ne le dit que maintenant? On est presque 2 mois après le meurtre. Mieux que ça. Un peu plus loin, il est tombé sur une Peugeot 504 blanche. Et qui était au volant, d'après vous? Une femme, avec les cheveux courts, costauds. Madame Mayer, forcément Madame Mayer. Le petit juge se frotte les mains. Alors il fait venir Madame Mayer et il la met au volant de la 504. Et il demande au témoin providentiel, « Vous la reconnaissez ?» Le témoin hésite un peu.
« Ouais, c'est peut-être elle, je sais pas trop. Ça peut correspondre. »
Qu'importe, le juge Pascal inculpe Madame Mayer de complicité et il l'envoie en prison. Là-dessus, le lendemain, la cour d'appel d'Amiens décide qu'il n'y a pas assez de charges contre le notaire et elle le libère.
Est-ce que vous n'avez pas ressenti ce matin cela comme un désaveu?
Ah, pas du tout, absolument pas. Moi, j'ai une opinion, d'autres personnes ont une autre opinion. Non, absolument pas. Il y a une situation bizarre d'ailleurs, je reconnais qu'il est bizarre maintenant, c'est que Monique Bayer est en prison, alors c'est la complice, et lui, l'auteur, est en liberté. Alors, ça pose évidemment un problème auquel je ne suis pas insensible. Je réfléchis à tout ça, je ne sais pas.
Notez le vocabulaire du juge. La complice, l'auteur, le juge Pascal ne s'embarrasse pas avec la présomption d'innocence. Peu importe en vérité, cette impartialité du juge est devenue tellement criante que la Cour de cassation décide de le dessaisir. Elle lui retire le dossier de Bruet en Artois. Et lui, il voit une décision politique.
Lorsque j'ai eu cette affaire en main et que j'ai mis le notaire en prison, j'ai immédiatement compris que tous les moyens seraient employés, les moyens les plus inaccoutumés, les plus inhabituels, pour que le notaire soit blanchi, pour que son rôle soit le moindre possible. J'ai tout de suite compris que je risquais même d'être dessaisi. Et c'est pourquoi je me suis efforcé d'aller le plus vite possible. J'ai agi en toute sérénité, en toute impartialité, à mon âme et conscience. Mais enfin, un jour, j'ai entendu tout de même le roi qui disait aux journalistes qu'il interviewait en sortant de mon cabinet, je sortirai de gré ou de force. Il l'a dit, ça s'est réalisé.
Dans la foulée, Monique Mayer, elle aussi, est libérée. Et tant qu'à faire, on change aussi de service de police. Bye bye la PJ de Lille, c'est la PJ de Paris, le 36 quai des Orfèvres, qui reprend le dossier à zéro. Et il faut attendre de très longs mois jusqu'au prochain rebondissement, le 18 avril 1973.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Les habitants de Bruet-en-Artois ont peine à y croire. Hier soir, un jeune homme de 17 ans et demi s'est accusé du meurtre de Brigitte Devèvre.
Jean-Pierre Flao. Vous vous souvenez, c'est avec lui que Brigitte a parlé longuement le soir du crime, pendant qu'elle mangeait son orange en sortant de chez elle. Jean-Pierre, tout le monde le connaît, à Bruet. C'est un orphelin élevé par son frère. Et donc il a avoué. Mais dans quelles conditions? Les policiers parisiens lui ont tendu un piège, en vérité. Ils ont fabriqué un faux procès-verbal, un témoin bidon qui prétend l'avoir vu sur les lieux du crime. Regarde Jean-Pierre, là. Il y a un témoin qui, à 20h05, dit qu'il t'a vu sur le terrain avec Brigitte. Oh, mais c'est pas vrai. J'ai un menteur. Allez, Jean-Pierre. Il y a un autre témoin qui dit que c'est bien toi. Il t'a reconnu. Alors, sous pression, Jean-Pierre craque.
Oui, c'est vrai. C'est bien moi qui ai tué Brigitte. C'est moi. L'homme avec le pull à col roulé que vous cherchez chez moi.
Mieux que ça, c'est lui qui possède les lunettes de Brigitte. Il les a cachées dans un fauteuil chez sa mère. Les policiers vont vérifier. Elles y sont. Et là, autant vous dire que les parents de Brigitte n'y croient pas une seconde. Pour eux, c'est toujours le notaire qui est coupable.
Et vous ne pensez toujours pas à la culpabilité de Jean-Pierre Flao? Enfin, tant que vous n'aurez pas en face
non,
de vous...
monsieur, pour moi, l'assassin, ce sera toujours le roi. Et Monique Mayer.
Et si Jean-Pierre Flao vous dit en face, c'est moi qui ai commis le crime?
J'aurais été payé pour le dire, monsieur.
honnêtes, vous l'avez compris, sont une preuve accablante pour Jean-Pierre. Le problème, c'est que ni la mère, ni la grand-mère de Brigitte ne les reconnaissent, ces lunettes. Et puis, ces aveux ne tiennent pas debout. Jean-Pierre a dit aux policiers qu'il avait rendez-vous avec Brigitte sur le terrain, un rendez-vous galant. Qu'ils se sont chamaillés, qu'elle est tombée, qu'elle ne respirait plus, qu'il a eu peur et qu'il a décidé de maquiller l'accident en crime sadique. Le problème, c'est qu'à aucun moment, il n'a dit qu'il l'avait étranglée. Or, elle a été étranglée. Et on le lui fait remarquer. Alors il corrige.
Ah ouais, ouais, c'est vrai. Elle respire encore, elle m'a dit des choses méchantes, alors je l'ai étranglée avec mes mains.
Avec ses mains? Mais Brigitte n'a pas été étranglée à main nue. Elle a été étranglée avec un foulard, a priori.
Ah ouais, ouais, c'est vrai. En fait, il y avait un foulard par terre, alors c'est avec ça que j'ai étranglé.
Les aveux de Jean-Pierre sont totalement bancals. Et le juge Pascal, qui a été dessaisi, mais qui n'en est pas pour autant muet, s'en régale.
C'est une chose qui ne m'a pas surpris. Qui ne m'a pas surpris parce que il a tout à fait le caractère de quelqu'un qui doit avouer quelque chose même qu'il n'a pas fait. Et ça, c'est son caractère. C'est un garçon qui aime briller, qui aime faire de l'épate, qui se pavanait comme un coq au milieu des filles, qui était tout heureux et ravi d'être mêlé à cette affaire.
Lors d'une reconstitution, un an plus tard, les gestes de Jean-Pierre ne collent pas du tout avec les constatations des médecins légistes. Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, il revient sur ses aveux, il a menti, ça n'est pas lui qui a tué Brigitte Devèvre. N'empêche qu'on va quand même le juger, pour le meurtre, à huis clos, puisqu'il était mineur. Et il est acquitté. Ça n'est pas lui. Et depuis? Eh bien depuis, il ne s'est rien passé. L'affaire a été classée en 1981, le juge Pascal est mort en 1989, le notaire est mort en 1997, et depuis 2005, l'affaire est définitivement prescrite. Le crime de Bruet restera une affaire sans coupable. Quoi qu'il arrive. Je peux même ajouter que Bruet en Artois ne s'appelle plus Bruet en Artois. Il y a eu un fusionnement de communes et maintenant cette commune s'appelle Bruet la Buissière. Alors pour débriefer cette histoire absolument passionnante, je suis avec un ancien policier qui s'appelle Daniel Bourdon. Alors Daniel Bourdon, on dit les choses tout de suite, vous êtes un ancien policier mais vous n'avez pas du tout travaillé sur cette affaire.
Tout à fait.
Vous n'êtes même pas un spécialiste de la criminelle.
Tout à fait.
Mais vous êtes né à Bruet en Artois.
Eh oui.
Et vous y avez grandi, vous y étiez à l'époque des faits.
Oui, bien sûr, j'avais 13 ans, j'ai resté jusqu'à l'âge de 18 ans sur Bruet, je connaissais cet endroit parfaitement, je connais tous les protagonistes, on se croisait dans le collège, école, enfin tout ce qui a fait mon enfance, et puis surtout, mon père est aussi un ouvrier des mines, donc je vis la même vie que Brigitte vit dans les corons.
Vous avez grandi dans le même genre
le
de
même
corons.
Milieu.
Le même milieu. Ça vous avait laissé un goût amer, cette histoire inachevée?
Au fur et à mesure du temps, à 13 ans, non moins, mais en vieillissant et en regardant l'affaire de nouveau, oui, ça laisse un goût amer parce qu'on se demande qui a fait vraiment quoi et quelle est la vérité, ou je dirais la vraie vérité, parce que on a souvent entendu dire la vérité.
Oui. Alors, comme les policiers partent en général un peu jeunes à la retraite, pour une raison simple, d'ailleurs, on peut le dire au passage, hein, c'est parce que ils collent toutes leurs récupérations et toutes leurs heures supplémentaires.
Oui, hein. Il y a tout un système qui fait que, ben, qui n'a plus lieu aujourd'hui, d'ailleurs.
Oui,
hein.
Mais votre génération est partie jeune et donc vous vous êtes dit, je vais tout reprendre à zéro.
Oui, je me suis mis à l'écriture pour d'autres livres et puis finalement je suis retombé sur l'affaire de Bruet.
Alors ce qui vous est arrivé à vous, c'est important de le dire, c'est que vous n'avez pas fait vraiment ce qu'on appelle une contre-enquête. D'abord vous n'en avez pas les moyens, sans carte de police et sans moyens on peut pas y arriver. Mais au fond vous avez profité de quelque chose qui est très intéressant, c'est que le temps passant, les langues se délient. C'est ça. Hein.
Voilà, je connais bien les lieux, je connais les gens.
Surtout les gens.
Les gens vont me faire. Je suis un enfant du pays. Je me suis dit, après avoir rencontré une personne, disons, importante de cette affaire, je me suis dit, il y a quelque chose à faire et peut-être que je peux le faire parce que justement, je suis un ancien Bruetien et en même temps un ancien policier qui peut quand même savoir réunir des preuves et les corroborer.
Alors, la conclusion de votre premier livre, si j'ai bien compris, vous avez retrouvé deux hommes. qui aujourd'hui doivent, qui étaient des gamins à l'époque, qui avaient quel âge?
Alors,
je vais pas citer les noms, puisque si j'ai bien compris, c'est pas les vrais noms.
Hein. Non, c'est pas les vrais noms, mais bon. Tout le monde, tous ceux qui connaissent l'affaire savent très bien. Non. Alors, il y en a un qui est disparu, oui. Par contre, qui a disparu dès un an après l'affaire, et l'autre que j'ai retrouvé dans la banlieue de Lille, qui lui, d'une façon improbable, m'a raconté l'histoire du déplacement du cadavre de Brigitte.
Bien Donc sûr. Ils ont déplacé le corps pour quelqu'un, c'est ça? Le lendemain.
C'est là où encore il y a encore du travail. Oui, normalement ils ont déplacé pour quelqu'un.
Alors, c'est ce qu'ils disent eux.
Oui, mais c'est ce qu'il dit lui. Enfin, en tout cas, celui qui reste. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit que il m'a donné des raisons, mais en même temps, il faut vérifier encore parce que l'enquête n'est pas terminée. Parce que c'est, si vous voulez, l'affaire de Brouet. À l'issue de la sortie de mon premier livre, on est tombé sur deux volets. Quoi, on a deux volets sur l'affaire de Brouet.
À chaque fois, ça ouvre des.
Oui,
ça ouvre
c'est des une pistes. Usine à gaz. Hein. C'est un peu ça quand même.
C'est une usine à gaz. Donc au départ, vous tombez sur un bonhomme qui dit avec un copain à l'époque, on a déplacé le corps pour quelqu'un et donc pour de l'argent.
Pour de l'argent.
C'est-à-dire qu'ils ont été les hommes de main de quelqu'un.
De quelqu'un qui leur a demandé de déplacer le corps.
Parce que donc il le tue le 6, on le découvre le 7.
Alors il le tue le 5.
Il le tue le 5, on le découvre le 6. Et pendant 24 heures, le corps est donc sur le terrain vague.
Le corps est, disons, si on prend l'heure dite par l'autopsie, c'est entre 20h, oui. Le 5 au soir, pour être déplacé le lendemain entre midi et 14h.
D'accord.
Exactement.
Eux, ils confirment que c'est à cette heure-là qu'il dit avoir.
De toute façon, dans mon livre, j'explique bien pourquoi c'est à cette heure-là que le corps a pu être déplacé.
Pourquoi?
Certainement pas dans la nuit.
Pour quelle raison?
Parce que dans la nuit, c'était pas encore prévu qu'il faille déplacer le corps. Peut-être Brigitte n'avait pas encore été découverte.
D'accord.
Puisque dans mon deuxième livre, je découvre que l'assassin n'est absolument pas le notaire, bien sûr.
Alors, le contexte quand même de cette histoire, parce que c'est deux gamins là qui déplacent le corps pour le compte de quelqu'un d'autre. Vous situez ça dans un contexte qui serait quoi? Des histoires de fesses.
Exactement. Partie fine, un peu de prostitution sans doute autour de ce qui avait lieu d'ailleurs dans cette région à ce moment-là. Pour preuve, 20 jours avant, je retrouve un crime qui a été 20 jours avant, Myriam Mouyam qui est tuée à Cochet-la-Tour et dans des conditions où en prenant le dossier police que j'ai pu avoir, on se rend compte qu'autour de cela, une affaire qui n'a absolument rien à voir avec l'affaire de Brouet, mais on se rend compte qu'il y a effectivement la prostitution autour de ça.
Donc il y avait vraiment, ça, de cela vous êtes certain, à l'époque dans la région de Bruay-en-Artois, des gens qui quoi faisaient des partouzes.
Oui, un peu ça. Alors les
mais
parties
avec des filles qu'on payait
oui,
plus
oui,
ou moins.
Oui, et peut-être, oui, voilà, où dans ce bois il se passait surtout quelque chose. Et ça, c'est les derniers témoignages qui arrivent dans ce bois où Brigitte a été trouvée. Il devait se passer certaines choses.
Sur place, des petits rendez-vous. Terrain vague, là.
Tout à fait. Ça, c'est un témoignage qui est arrivé à la fin de l'enquête de mon deuxième livre.
Mais pardonnez-moi, il y a quelque chose que j'ai quand même du mal à croire. Bon, on a tous en tête, enfin, en tout cas, les plus vieux, la photo de Brigitte Devèvre.
Hein.
C'est une fille, pardon de le dire, qui a l'air un peu coincée.
Tout à fait.
Un peu réservée, un peu boutonneuse. Vous voyez ce que je veux dire?
Exactement.
Est-ce que vous êtes en train de me dire que Brigitte Devèvre, hypothétiquement, participait à ces parties fines?
Non, justement, non. Justement, c'est là où il y a le problème, c'est que Brigitte a dû être soit confondue à cette heure-là avec quelqu'un d'autre, hein, mais c'est là où j'en suis aujourd'hui, où on a cru que Brigitte participait, mais Brigitte n'a effectivement jamais participé à ce genre de choses.
Mais l'ancien gamin, devenu vieux aujourd'hui, qui vous met sur cette piste-là, il sait lui ce qui se passait là?
Pas vraiment.
Ou il est neuneux et
non, c'est un homme qui est toujours perturbé, hein, même malgré ses 62 ans aujourd'hui, toujours perturbé, et qui lui ne sait pas vraiment. Lui, on va le chercher parce que c'est un homme qui pique des autoradios, qui gagne un peu de l'argent comme ça.
Oui.
Et on lui dit voilà, il y a une fille qui s'est fait blesser hier, c'est un accident, il faudrait simplement déplacer le corps pour éviter des ennuis à certaines personnes. Voilà, c'est exactement ça qu'on lui dit.
C'est lui qui vous donne le nom du donneur d'ordre, du commanditaire de...
Oui, mais je l'avais déjà trouvé avant. Mais il me le confirme.
Alors, une femme vient vous dire, c'est mon ancien mari qui a tué Brigitte Devèvre.
Alors,
la trouvez comment celle-là?
À la sortie de mon premier livre, je comptais bien pour avoir d'autres témoignages, pour que les gens puissent voir que finalement j'apporte des choses nouvelles dans l'affaire et surtout que ces gens puisse venir me raconter ce qu'ils savaient et qui n'ont peut-être pas voulu le dire pour beaucoup de raisons en 72, en 73 et dans les années qui ont suivi. Et j'ai un monsieur qui se présente, qui fait le relais de sa tante et qui me dit, voilà, j'ai lu votre livre, le premier livre donc, il y a des choses qui sont intéressantes, mais là où on n'est pas d'accord, c'est que pour moi, le fameux Enoch, que je nomme Enoch, n'est pas l'assassin. Alors je dis, j'ai pas dit que Enoch était l'assassin, j'ai dit que
il pourrait
être potentiellement un assassin. Mais il me dit, parce que moi je le connais.
L'assassin.
L'assassin. Donc là, à partir de là, évidemment, on prend oui ou non au sérieux ce monsieur, mais très vite je vais m'apercevoir que c'est un homme qui est tout à fait sérieux, qui travaille pour la police, qui n'est pas policier mais qui travaille, et puis il va m'apporter des éléments importants et il va me faire rentrer en relation avec sa tante qui vit dans le sud de la France. Je vais l'enregistrer et elle va par quatre fois me donner les mêmes témoignages.
Donc elle vous dit que son mari lui a avoué, ouais, avoir tué Brigitte.
Tout à fait.
À quelle époque?
Alors, elle le confond dès le lendemain. C'est-à-dire dès le lendemain, parce que ce jour-là, il rentre très tard, il rentre jamais tard, il rentre avec les feux tout éteints dans la voiture, dans la rue, le confond, elle va lui dire, il va bien sûr botter en touche, puis entre-temps, le notaire va être mis en cause, donc elle va un petit peu douter quand même, mais elle va quand même trouver des preuves que c'est lui. Elle va garder ce secret-là pendant une année, ils vont déménager, ils sont toujours avec son mari, ils vont partir dans le sud, et en 75, lors d'une une dispute où elle sera d'ailleurs sérieusement blessée par son mari, lui va lui avouer, parce qu'elle va lui remettre en scène cette histoire, et il va avouer qu'il a tué Brigitte Doeb, mais il lui dit, tu te tairas, car c'est notre fils qui prendra, donc elle aura toujours peur qu'il puisse faire du mal à son fils.
Donc elle se tait au fond jusqu'à la prescription, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de marche arrière possible. Parce qu'aujourd'hui, même si vous nous donnez dans 5 minutes ou dans un an le nom de l'assassin de Brigitte Devèvre, il lui arrivera strictement rien.
Absolument rien, même cet homme pourrait même porter plainte contre moi, donc ça soit pour diffamation.
Mais elle, sur le contexte, ces histoires de parties fines, de partouzes, de fil, terrain vague, tout ça, elle sait des choses?
Non, elle sait surtout, lui c'est l'assassin improbable, c'est-à-dire que c'est là où on voit que dans ce bois il se passait quelque chose. Il venait là pour justement avoir sa collation, mais
sa gratification.
Sa gratification, voilà.
Bon.
Et si vous voulez, je pense que Brigitte est passée là au mauvais moment, il a confondu avec peut-être une autre fille qui pouvait pratiquer ce genre de truc. Je pense qu'aujourd'hui, on en est là.
Ce monsieur, il est toujours vivant?
Tout à fait.
Vous l'avez identifié?
Ah oui.
Vous l'avez localisé?
Localisé, identifié.
Mais dans votre livre, vous ne l'avez pas rencontré?
Non. C'est ce qu'on compte, faire maintenant. Bah, c'est pas vraiment le tome 3, parce que ce qui compte surtout maintenant, c'est de porter les conclusions, parce que tout ce qui m'a été dit par cette dame rentre dans les cases, rentre dans l'enquête, rentre dans la façon où il est habillé, le col roulé du soir, etc. Enfin, tout ce qui a été dit, et puis surtout, j'ai une photo qui correspond à physiquement à ce que Dominique Roger, la dernière personne à avoir vu Brigitte avec cet homme, et voilà, et ça correspond à beaucoup de choses. Il y a les éléments correspondent.
Donc, prochaine étape, allez le voir.
Ma prochaine étape, aller voir cette dame réellement les yeux dans les yeux, mais je sais que on a déjà fait écouter son témoignage par des gens plutôt spécialisés et psychologues pour voir si c'était la route, et après voir ce monsieur.
Ok, bah écoutez, merci à vous. Vous reviendrez donc, je re-raconterai l'histoire de Bruyères-en-Artois et vous viendrez nous donner le point final de votre enquête. Je renvoie à vos deux livres qui sont des petites mines d'or pour tous ceux qui s'intéressent. Alors là, aux tout petits détails de cette histoire, Brigitte, histoire d'une contre-enquête chez Ravet Anceau et chez le même éditeur, Brigitte, acte 2, signé donc Daniel Bourdon.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.